L'Évangile, nous dit-on, est une bonne nouvelle. Mais la question, c'est quelle est la bonne nouvelle pour nous dans ce récit de la pêche miraculeuse? Je pense que ce type de texte même montre que toute lecture, je dirais au pied de la lettre de l'Évangile, est absurde. Parce que si en effet il fallait lire chacun des miracles de l'Évangile comme étant quelque chose que l'on pourrait répéter aujourd'hui, alors cette bonne nouvelle de la pêche miraculeuse n'en serait une que pour les marins pêcheurs. Et on pourrait dire les marins pêcheurs chrétiens pêchent beaucoup plus de poissons que ceux qui ne le sont pas parce qu'ils peuvent prier Jésus-Christ qui leur permet de faire des récoltes merveilleuses que les autres ne feraient pas. Or, je ne pense pas que depuis 2000 ans, les marins pêcheurs chrétiens ramassent plus de poissons que les autres. Et donc, forcément, il y a là quelque chose à comprendre et il faut en faire une lecture symbolique, si vous voulez, allégorique, pour pouvoir faire en sorte que ce texte nous concerne, nous aussi, aujourd'hui, que nous soyons dans un bateau ou pas. Et là, le décodage n'est pas très compliqué, parce que l'on sait que dans toute la Bible, la mer représente l'épreuve, le mal, la mort, tout ce qui peut nous engloutir, tous les événements où on a l'impression de perdre pied, et on dit là, je vais me noyer, en quelque sorte. Et l'annonce de l'Évangile, c'est de dire, vous savez, même au plus profond de la nuit, même au plus profond de l'épreuve, eh bien, il y a des particules de vie, il y a des choses qui sont vivantes, et c'est à vous d'essayer d'aller chercher dans le fond de la mer, justement, ces particules de vie, de joie et de bonheur qui s'y trouvent pour les ramener à la surface et en vivre. Et c'est d'autant plus vrai que, ce sera la petite leçon hébraïque du jour, en hébreu, le poisson, ça se dit « dag », et que « dag », c'est l'anagramme de « gad », qui en hébreu veut dire « le bonheur ». Et donc le poisson, dans la Bible, c'est le symbole justement du bonheur, en quelque sorte. Et donc comment trouver du bonheur au plus profond de la mer? Comment trouver des particules de vie quand on est plongé soi-même dans le deuil et dans la mort? Alors l'Évangile nous dit, et même tout le monde nous dit, vous savez, dans toute épreuve, il y a des choses positives à tirer et on peut toujours trouver de la joie, de l'espérance, même au plus profond des ténèbres et de la difficulté. C'est vrai, on en est tous convaincus, mais ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que les disciples, eux, tout en étant convaincus, n'y arrivent pas. Et on nous dit toute la nuit, tiens, encore la nuit, la ténèbre, toute la nuit, les disciples se sont dit, mais on devrait pouvoir trouver dans cette mer, dans ce mal, dans cette mort, on pourrait devoir y trouver un peu de vie, un peu de joie. Ils cherchent, ils pêchent, ils creusent, ils recreusent, ils repêchent, ils recherchent. Rien, 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 rien. La mer ne livre aucune parcelle de vie, ni d'espérance, aucune lumière. Et la nuit reste compacte. Et ils rentrent chez eux, je dirais bien tristes et bien découragés, parce qu'ils n'ont pas réussi. Et parfois, nous aussi, dans cette situation, nous pouvons dire, tout le monde me dit qu'on peut trouver du bien dans le mal et dans l'épreuve, eh bien, je suis désolé, mais là, je ne trouve rien. Alors, le texte, évidemment, ne va pas nous laisser dans une telle désespérance. Et justement, là apparaissent un certain nombre de bonnes nouvelles absolument passionnantes. La première, c'est qu'en revenant, les disciples trouvent Jésus devant eux. Et ça, c'est une bonne nouvelle extraordinaire parce que certes, c'est une bonne nouvelle d'abord de rencontrer Jésus parce que lui, il nous donne plein de choses positives, mais ça n'est pas que ça. C'est que ce Christ se trouve sur leur route alors même qu'il ne le cherchait pas. Et cela nous montre que même si nous avons entre nous un peu oublié de chercher Jésus, eh bien, Jésus ne se fâche pas pour autant, en quelque sorte. Il se retrouve toujours sur notre chemin. Et peut-être, précisément, au moment où nous sommes les plus désespérés, Jésus est là. Mais chose remarquable, dans l'Évangile, vous l'avez entendu certainement, Jésus est là, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le savent pas, mais il est là. Et donc, première bonne nouvelle, vous ne le savez peut-être pas, mais au moment où vous en avez le plus besoin, Jésus est là devant vous, il vous regarde et il vous parle. Alors que fait-il? Eh bien, peut-être qu'il ne fait rien, mais il est là. Et peut-être qu'il ne fait rien parce que, évidemment, c'est aussi la question parfois que certains posent, mais dans l'épreuve ou dans le mal, où est Dieu? Que fait-il? Que fait-il? Je ne sais pas, on va le voir tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que dit le texte, c'est que Dieu est là. Et par conséquent, je ne sais pas pourquoi il arrive tout ce mal, pourquoi ils sont dans la ténèbre, pourquoi ils ne peuvent rien ramener de la mer et de la nuit, mais je vous dis, Dieu est là à vos côtés. Et donc vous n'êtes pas seul, vous avez un ami avec vous qui vous aime, qui vous regarde d'un regard bon et compatissant. Il y a un ami qui est là avec vous. Alors évidemment, si on cherche Dieu, si on cherche Jésus, il est là. Parce que qui cherche trouve, etc. Mais même si vous ne le cherchez pas, il est là. Ensuite, Jésus va débloquer la situation. Ça, c'est intéressant. Comment s'y prend-il? Eh bien, il s'y prend non pas en donnant un commandement, non pas en faisant des reproches, mais il va débloquer la situation en posant une question. Bon. Et il va dire aux disciples, « N'avez-vous rien à manger ?» On peut l'entendre de différentes manières. La première et la plus simple, c'est de dire « Jésus va aider les disciples à verbaliser leurs problèmes, si vous voulez. » C'est qu'il va leur dire « Mais vous n'avez rien à manger ?» Et les disciples vont dire « Ben oui, c'est vrai, on n'a rien parce qu'on a pêché toute la nuit et on n'a rien trouvé. » Et il paraît, mais je crois que c'est vrai, que dès le moment que l'on commence déjà à verbaliser son problème, c'est-à-dire à dire ce qui nous fait du mal et à dire ce qui nous préoccupe et ce qui nous tracasse, eh bien, d'une certaine façon, le problème ne fait plus partie de moi-même, mais ça devient un objet que je décris, si vous voulez. Donc ça vient quelque chose que je peux gérer, dont je peux faire quelque chose. C'est-à-dire que le mal devient hors de moi parce que j'en parle. Donc c'est la première chose. Quand on dit son problème, quand on verbalise sa difficulté, eh bien, c'est plus facile ensuite de reconstruire et ça aide à se remettre en cause aussi peut-être, à mieux comprendre et à refaire autrement. Ensuite, Jésus va donner un petit conseil. Si je reste dans la première couche, si vous voulez, un peu moralisatrice en quelque sorte, Jésus va leur dire, bon ben allez, on va recommencer, venez. On y retourne. Et il dit, on va recommencer, mais ce coup-ci, tenez, jetez votre filet du côté droit. Tiens, ça c'est amusant. Jetez votre filet du côté droit. Et du coup, je me dis peut-être que les disciples n'avaient rien trouvé parce qu'ils jetaient toujours leur filet du mauvais côté. Et en effet, dans une barque, comme dans tout événement de la vie, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Et quand on cherche toujours du mauvais côté, évidemment, on ne trouvera jamais rien de bon. Et Jésus, finalement, leur dit, bah, écoutez, regardez les choses dans un autre sens et regardez de l'autre côté. On pourrait dire, pour être un peu trivial, si vous voulez, au lieu de voir toujours le verre à moitié vide, regardez-le à moitié plein. Ou alors, regardez une autre face de la chose, parce que tout événement, peut toujours être vu dans un sens ou dans l'autre, positivement ou négativement. Et donc peut-être, avec l'Évangile, sommes-nous invités à voir les choses autrement et à regarder les choses dans le bon sens, c'est-à-dire à les regarder du côté de la lumière. Parce qu'en effet, le côté droit, ah, c'est compliqué. Le côté droit, c'est le côté du sud. Pour les cartes hébraïques, parce que les Juifs orientaient leurs cartes non pas vers le nord comme nous, mais vers l'est. Pour ça qu'on dit orienter, c'est-à-dire tourner vers l'Orient. Et donc le côté droit, c'est vers le sud. Donc vous voulez de la lumière, et bien tournez-vous vers la lumière, et vous en trouverez. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que, finalement, je ne suis pas sûr que cette petite lecture un peu psychologisante soit la plus essentielle de l'Évangile. Je crois que quand Jésus leur dit « N'avez-vous rien à manger ?» c'est pas pour leur faire dire ce qui est le cas. Je pense que Jésus leur demande pour lui, Et Jésus est là, et c'est quelqu'un qui leur dit, ben, vous avez quelque chose à me donner à manger? C'est-à-dire que c'est pour lui qu'il demande. Il dit, c'est comme si vous avez quelqu'un dans la rue qui vous dit, t'as pas un euro? C'est pas pour lui dire, ah oui, tiens, c'est vrai, j'en ai pas. C'est parce qu'il espère que vous le lui donniez. Et donc, quand Jésus dit, n'avez-vous rien à manger? C'est-à-dire qu'il dit, donnez-moi à manger. Alors là, ça change tout. Parce que du coup, les disciples vont retourner chercher et creuser dans la mer, dans l'obscurité, dans leur barque avec leur filet, mais en changeant radicalement leur état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus y aller en se disant « il faut que je cherche quelque chose pour moi », mais ils se disent « j'y retourne, non pas pour moi, mais pour l'autre ». Et là, ça change tout, parce que quand on se dit « dans ma vie, il faut que j'arrive à trouver du bonheur », on n'en trouve pas. Mais quand on se dit « dans ma vie, il faut que je trouve du bonheur à donner à l'autre », là vous en trouverez. Et vous en trouverez des montagnes, des monceaux, de quoi faire craquer vos filets, déborder, je dirais, enfoncer votre barque. Et si vous cherchez du bonheur pour un autre, vous en trouverez tellement plein qu'il en restera même en surabondance pour vous. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Alors vous me direz, bon, c'est facile puisque c'est pour Jésus. Alors j'aimerais, en tant que pasteur, dire que oui, il faut donner à Dieu des choses et je vais chercher du bonheur pour faire plaisir à Dieu. Mais même pas, le texte nous l'a dit, ils ne l'avaient pas reconnu. Et donc, ce n'est pas Jésus qui leur demande, c'est un quidam. Et les disciples repartent pécher, pas du tout pour Jésus, pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Alors là, c'est extraordinaire. Cela veut dire que on ne nous demande pas simplement d'aller chercher des choses pour Jésus, pour Dieu, pour mon ami, pour mon frère, mais pour qui se trouve là, en face de vous, sur la plage, celui qui est devant vous, là, que vous ne connaissez pas, et qui vous dit « Et toi, qu'est-ce que tu as à me donner ?» Eh bien, je dis « Oui, eh bien, mon vieux, on y va ensemble, ensemble, et on va chercher ensemble, et on va recreuser. » Et quand on va recreuser pour un autre, eh bien, il y a un miracle extraordinaire, c'est qu'ils vont en trouver des montagnes, vous disais-je, parce que ça les force à sortir de leur égoïsme, qui est la chose la plus mortifère qui soit. Donc pour lui, ils vont en trouver plein, et puis le miracle ne s'arrête pas là, puisque le texte nous dit, voyez, il faut lire en détail les textes, il ne faut pas aller trop vite. Ils reviennent à la plage, et là, ils trouvent un brasier allumé avec déjà des poissons en train de griller et du pain. Alors mes catéchumènes disent par là que Jésus est l'inventeur du barbecue, et on m'a dit que je devrais faire subventionner cette prédication par les établissements Weber, que ça devrait leur plaire. Mais par-delà cette idée, ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent sur la plage et trouvent déjà des poissons en train de griller avant même qu'ils apportent les leurs. C'est-à-dire que, autre bonne nouvelle, eh bien, nous n'avons pas seulement, je dirais, les grâces et les joies que nous méritons d'avoir trouvées, mais il y a en plus offert gratuitement par Dieu une surabondance de dons. Si vous voulez, c'est là où on sort de l'aspect directement moral de cette affaire. L'aspect moral, c'est ça, oui, si vous cherchez pour les autres, vous trouverez, il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner de la joie aux autres, etc. Mais ça n'est pas que ça. Quand on donne pour les autres, eh bien Dieu lui-même vous donne directement des grâces et vous donne directement des parcelles de vie, de bonheur et de joie. Et quel que soit ce que vous avez mis dans votre propre filet, il y a des grâces et du bonheur qui sont offerts par Dieu gratuitement. Tout cela est bien et je crois juste. Et en même temps, ce texte de la pêche miraculeuse va encore plus loin, je crois, si on se donne la peine d'y creuser un peu plus. Donc, retournons dans ce texte et jetons notre filet d'encore un autre côté. Et cet autre côté, c'est que je pense qu'il s'agit beaucoup plus, finalement, que ce que je vous ai dit, qui reste quand même une lecture un peu psychologique et moralisante de la chose, parce que ça n'est pas seulement d'aller chercher dans les épreuves des parcelles de joie. Et ça me fait penser à un autre texte de l'Évangile. Vous savez, quand Jésus, au début de son ministère, croise Pierre, qui est en train de pêcher, justement, sur le lac de Tibériade, et lui dit « Suis-moi ». et je te ferai pêcheur d'hommes. Ah. Et donc je me dis, est-ce que la question, l'enjeu du texte en fait, ce ne serait pas non pas tellement de pêcher des petits événements, de grappiller des joies dans la vie, mais d'aller pêcher des hommes, de sauver, je dirais, des êtres humains entiers pour les sauver. La piste me semble intéressante, sauf que là, il y a quelque chose qui me gêne. C'est qu'il me semblait que le message de l'Évangile, c'était que tout le monde était sauvé, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vais sauver les gens et ramener des pêcheurs pour les sauver. C'est Dieu qui sauve. Et donc, Dieu n'a pas besoin que j'aille pêcher les gens pour les sauver. Donc, je ne crois pas que l'apôtre soit celui qui vienne sauver des gens, puisque c'est Dieu qui sauve. Donc, c'est une fausse piste. À moins qu'on puisse dire que ce qu'il faille tirer, c'est des hommes, des êtres humains qui, justement, eux, sont au plus profond du noir, de l'épreuve et de la mort. Et comment est-ce que moi je vais réussir à les tirer de là pour les amener à la lumière, à l'espérance et à la joie? Eh bien c'est ça ce travail de pêcheur d'hommes. C'est comment est-ce que je vais réussir à aller vers les gens et à les sortir de la boue où ils se trouvent, du marasme dans lequel ils se trouvent, du désespoir dans lequel ils se trouvent, de la culpabilité qui les étouffe. Comment je peux arriver à faire ce travail extraordinaire pour amener mes frères, mes sœurs à la joie et à l'espérance? Alors là, eh bien c'est intéressant parce qu'on voit la méthode de Pierre. Alors écoutez bien comment Pierre s'y prend. Et là encore, il faut regarder comment ça se passe. Première chose que fait Pierre, nous dit-on, c'est qu'il met un vêtement parce qu'il était nu. Alors ça devient un peu symbolique, vous m'excuserez, mais c'est assez simple. Il met un vêtement parce qu'il était nu et il se met une ceinture autour des reins. Alors la ceinture autour des reins, ça je comprends, c'est ce qu'on porte normalement quand on met une robe de pasteur ou dans les vêtements liturgiques. La ceinture autour des reins, ça veut dire « je suis prêt pour aller au boulot ». Bon, alors que quand on est nu, bon, on va se mettre au lit ou dans son bain, on ne fait rien. Donc déjà Pierre se dit « ok, je mets ma ceinture, on y va ». Ensuite, il se met un vêtement parce qu'il était nu. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nudité dans la Bible, c'est l'imperfection, c'est-à-dire représente le péché. Vous voyez l'histoire d'Adam et Ève, je n'ai pas le temps de développer, mais l'idée de la Bible, c'est que tout nu, eh ben, on n'est pas forcément très beau, voilà, et qu'il y a des tas d'imperfections, et que le vêtement, c'est une façon de cacher l'imperfection de notre nudité, voyez-vous. Et donc le vêtement, c'est une sorte de, je dirais, d'attention que l'on a vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que si on est tout seul, on peut très bien se balader tout nu, mais on s'habille pour les autres, pour leur dire, écoutez, je ne veux pas vous imposer l'imperfection de mon corps, et donc je vais essayer de vous donner une image qui ne soit pas trop déplaisante. Voilà, tout simplement. Et ainsi, se vêtir alors que l'on est nu, c'est la première chose essentielle, c'est dire, tiens, moi je sais que je suis pécheur, et donc que j'ai besoin également de pardon. Et se vêtir quand on est nu, ça a un nom dans notre liturgie, c'est la confession des péchés. Et je crois que c'est vrai, parce que avant de pouvoir sauver quelqu'un, avant de pouvoir aider quelqu'un, il faut déjà ne pas se prendre pour Dieu ou pour le Messie. Et la première chose que l'on doit faire quand on veut aider quelqu'un, c'est se reconnaître soi-même pécheur et imparfait. Si on arrive de haut en disant « Mon ami, je vais t'aider, je vais te sauver parce que moi, je suis grand, je suis beau, je suis fort, je suis parfait », on n'aide personne. Mais c'est justement dire « Mais excuse-moi, je suis pécheur aussi et je le reconnais et je te le dis. Et tu sais, je ne suis pas, moi, un exemple de réussite, de perfection et tout. Et justement parce que je suis imparfait et que je t'en demande pardon, eh bien ensemble, on va pouvoir y aller ». Et d'ailleurs, c'est ce que va faire Pierre, parce qu'il va se jeter à l'eau. C'est-à-dire qu'il ne va pas du haut de sa barque dire « Mon ami, un peu plus à droite, allons, tu vas y arriver !» Comme le maître de nageur de mon enfance qui, du haut de son ponton, me tendait une perche bienveillante en disant « Je me noyais à moitié, disait « Tu vas y arriver, tu vas y arriver !» C'est facile quand on est au sommet du ponton et de la barque. Pierre, il se jette à l'eau. Et donc il dit « Oui, je suis pécheur comme toi, et toi qui souffres, je ne t'aide pas d'en haut d'une façon comme ça compatissante, mais je me mets dans le bain avec toi. » et je vais avec ceux qui souffrent pour partager leurs souffrances, pour comprendre leur situation, et c'est dans l'eau avec les autres que j'ai une chance de pouvoir les aider, parce qu'il faut accepter de partager d'une certaine façon la peine de ceux qui souffrent. Et puis, les pères de l'Église, évidemment, ont compris aussi depuis toujours dans l'Antiquité, c'est ce fait que Pierre se plonge dans l'eau comme une référence au baptême. Effectivement, c'est intéressant, même si je ne suis pas sûr que ce soit la clé de lecture du point de vue évangélique, mais la chose est intéressante parce que Pierre, se plongeant à l'eau, je dirais, réitère la signification même du baptême. Alors voilà, chers amis, que signifie le baptême ? Question que vous devez rechercher dans vos mémoires d'école biblique, et je vous dirai, pour vous aider, les deux sens possibles. Le premier, qui ne concerne pas les baptêmes de bébés, c'était le baptême de Jean-Baptiste, qui était un baptême de pardon des péchés. Donc Jean-Baptiste plongeait les gens dans le Jourdain, ils devaient confesser leurs fautes, et on leur annonçait le pardon des péchés en le plongeant dans l'eau. Alors là, ça nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure et ce qui prouve que je ne dis pas absolument n'importe quoi. Tout ça est bien cohérent. Pierre, effectivement, reconnaît son péché, son état d'imperfection, et il se plonge dans l'eau, symbole du pardon et de la grâce de Dieu. Mais pour nous, chrétiens, le baptême n'est pas le signe du pardon des péchés, parce que quand on baptise un bébé, on lui pardonne aucun péché, pauvre lapin, il a 6 mois, 1 an, 2 ans, il n'y a pas grand-chose à lui pardonner. Mais on nous dit le baptême des enfants, c'est le signe de la grâce, voilà, de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Et du coup, cela voudrait dire que Pierre, non seulement dit, certes, je suis pécheur et pardonné, mais en plus, il va se jeter dans la grâce de Dieu. Et ça, c'est ce que nous sommes invités à faire, se jeter dans la grâce, ou même, on pourrait dire, se jeter à l'eau. Extraordinaire, et dire je ne sais pas si j'arriverai, peut-être que Pierre ne savait même pas nager, je n'en sais rien, et en plus il s'habille avant d'aller dans l'eau, ce qui n'est pas une très bonne idée, mais il se jette à l'eau, c'est-à-dire une sorte d'acte de confiance où il dit j'y vais, j'y crois et j'y arriverai, avec l'aide de Dieu j'y arriverai. C'est le saut de la foi qui a été développé, vous savez, par Kierkegaard, je crois, qui disait la foi est un saut qualitatif dans ce qu'il appelait l'absurde, alors c'est pas ce qui est idiot, mais un saut qualitatif, là, il y a dans la foi un engagement où on dit c'est pas très rationnel, ça ne correspond pas aux règles du marché économique, mais j'y crois et je me jette dans l'amour pour aller vers l'autre, même si ça semble idiot, je le fais. Et donc Pierre, qui va se quitter, je dirais, ses petites protections humaines, qui va quitter sa... Je dirais là où il se sentait bien en sécurité, tranquille, bien au sec, bien protégé de tout, il sort de tout cela et à la grâce de Dieu, il se jette dans le monde avec les autres pour servir le Christ. Et c'est ça qui va faire évidemment un effet extraordinaire et ce que nous sommes invités à faire. Et grâce à ça, il va trouver, nous y arrivons, 153 gros poissons. Alors là, ça fait des années et des années que je cherche en me disant pourquoi trouve-t-il 153 poissons et pas 152 ou 154. On nous dit c'est pour dire il en trouve beaucoup. Alors si c'est beaucoup, ça pourrait être 100, ça pourrait être 1000 ou 10 000, j'en sais rien. Pourquoi 153 ? Saint Augustin, j'ai cherché chez tous les auteurs, je peux vous faire un livre entier là-dessus. Saint Augustin dit c'est le nombre d'espèces de poissons connues. Je ne sais pas où il tirait ça. Il disait à l'époque, on pensait qu'il y avait 153 espèces de poissons. Je ne sais pas ce que disent les biologistes aujourd'hui, j'aimerais le savoir. Et il disait donc, il ramène toutes les catégories d'êtres humains, quel que soit leur genre. C'est-à-dire que tout le monde est bienvenu, tout le monde est accueilli. Les bons, les moins bons, les chrétiens, les non-chrétiens, les mangeables et les autres, les purs et les impurs, tout le monde dans le filet, hop, ramenés à la grâce, à la joie et au salut. Tous sauvés, salut universel. Eh bien, je ne sais pas comment saint Augustin a trouvé ça, mais je crois qu'il avait raison. Parce que, ayant moi-même aussi un passé un petit peu mathématicien, je sais que 153 est un nombre absolument remarquable. Parce que 153, c'est la somme des 17 premiers nombres entiers. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 tadada, plus 17 égale 153. Et 153, c'est aussi 3 fois 3 fois 17. Et donc 153 pour la numérologie hébraïque, qui fonctionne comme ça, c'est une façon de développer le nombre 17. Alors bon, le problème est reporté un peu plus loin. Que veut dire 17 ? Réponse, rien. Et c'est là où j'ai séché pendant des années et des années, parce que 17 dans la Bible ne représente rien. Jusqu'à ce que j'ai découvert, dans les textes de la tradition juive, que 17, c'était ce que l'on considérait comme étant le nombre de nationalités existant dans le monde. Et en effet, si vous étiez ici même dans ce temple le jour de Pentecôte, vous avez entendu le nom des nationalités auxquelles s'adressent les apôtres le jour de la Pentecôte. Parthes, Mèdes, Élamites, les Juifs de la Cappadoce, etc., Juifs et Arabes, prosélytes, etc. Combien y a-t-il de nationalités évoquées ? Réponse, 17. Et donc 17, c'est toute l'humanité, le monde entier. Et 153, c'est toute l'humanité fois 3 fois 3. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le monde de tout le monde, de chez tout le monde. Et c'est bien ça, donc saint Augustin avait raison. Ce que l'on ramène, c'est des êtres humains, quels qu'ils soient. Et ainsi, la qualité de ceux que l'on aide et que l'on sauve ne dépend pas, je dirais, de leur origine, de leur nationalité, ni même de leur foi, mais dépend simplement du fait que l'on aille avec eux pour les ramener à la surface et pour venir avec eux. Et une fois accueillis, nous sommes invités à aller sur la berge, sur place, pour partager ce banquet extraordinaire que Jésus lui-même a organisé, a préparé, partager ce banquet communautaire et ce moment extraordinaire que j'aime beaucoup, parce que tout cela est merveilleusement poétique dans l'Évangile, ce moment d'une joie partagée, dans l'amitié, dans la fraternité, où chacun mange ce qu'il a apporté, avec non seulement ce que chacun apporte, mais en plus, les données merveilleuses qui sont celles que Jésus lui-même nous a offertes. Et ainsi donc, frères et sœurs, comme aux apôtres, comme Jésus a dit aux apôtres pour les engager à le suivre, je vous dirai à chacun de vous, allez sur la mer et suivez Jésus-Christ, il fera de vous des pêcheurs d'hommes et avec tout ce que vous ramènerez, à la surface, à la lumière et au soleil, vous ferez le banquet extraordinaire, que le banquet messianique et eschatologique de la joie qui ne s'éteint jamais. Amen.